Il me semble que l'on s'efforce maintenant partout de détourner le regard de l'influence véritable que Kant a exercée sur la philosophie allemande, et surtout de glisser prudemment sur la valeur qu'il s'est reconnue à lui-même. Kant s'enorgueillissait, avant tout, de sa table des catégories. Il disait, avec cette table en main, ouvrez les guillemets, voilà ce qui pourrait être tenté de plus difficile en vue de la métaphysique, fermez les guillemets. Qu'on entende bien ce « pouvait être ». Il était fier d'avoir découvert dans l'homme une nouvelle faculté du jugement synthétique a priori. En admettant qu'il ait fait erreur sur ce point, le développement et la floraison rapide de la philosophie allemande ne tiennent pas moins à cette fierté et aux ailes que tous les savants plus jeunes mettent à découvrir, si possible, quelque chose qui les enorgueillit davantage encore, à découvrir en tous les cas de nouvelles facultés. Mais réfléchissons. Il est grand temps. Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Se demanda Kant. Et que répondit-il en somme? Au moyen d'une faculté. Mais il ne se contenta pas, malheureusement, d'une réponse en trois mots. Il fut prolixe, solennel, il fit étalage de profondeur et d'amphigourie germanique, au point que l'on oublia la joyeuse niaiserie allemande qu'il y a au fond d'une pareille réponse. Mieux encore, on ne se sentit plus de joie devant cette découverte d'une faculté nouvelle, et l'enthousiasme atteignit son comble lorsque Kant ajouta une nouvelle découverte, celle de la faculté morale de l'homme. Car alors les Allemands étaient encore moraux et ne s'occupaient en aucune façon de politique réaliste. Et ce fut la lune de miel de la philosophie allemande. Tous les jeunes théologiens du séminaire de Tuningue fouillèrent les buissons pour y découvrir encore des facultés. Que ne découvrit-on point, durant cette période encore si juvénile de la philosophie allemande, cette période innocente et riche, où chanta la fée maligne du romantisme, alors que l'on ne savait pas encore distinguer entre découvrir et inventer. On découvrait avant tout une faculté pour les choses transcendantes. Schelling la baptisa du nom d'intuition intellectuelle et vint ainsi au-devant des désirs les plus intimes de ces Allemands remplis d'envie pieuse. On ne peut faire de plus grand tort à tout ce mouvement impétueux et enthousiaste qui était la jeunesse, bien qu'il s'affublât audacieusement d'un manteau d'idées grises et séniles, qu'en le prenant au sérieux, qu'en le traitant même avec indignation morale. Bref, on devint plus vieux. Et le rêve s'envola. Il vint un temps où l'on se mit à se frotter le front. On se le frotte encore. On avait rêvé, avant tout et en premier lieu, le vieux Kant, au moyen d'une faculté, avait-il dit. Voulut-il dire, tout au moins. Mais est-ce bien là une réponse, une explication, ou plutôt n'est-ce pas la répétition de la question? Comment l'opium fait-il dormir? Au moyen d'une faculté. La virtus dormativa, répondit ce médecin de Molière. Quia est in eo virtus dormitiva, currus est natura, sensus assoupire. Mais de pareilles réponses conviennent à la comédie, et il est enfin temps de remplacer la question de Kant, comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles, par une autre question, pourquoi la croyance en de pareils jugements est-elle nécessaire? C'est-à-dire qu'il est enfin temps de comprendre que, pour la conservation des êtres de notre espèce, les jugements doivent être tenus pour vrais, ce qui ne les empêcherait d'ailleurs pas d'être des jugements faux. Ou pour parler plus clairement, pour dire les choses grossièrement et radicalement, les jugements synthétiques a priori ne devraient pas du tout être possibles. Nous n'avons aucun droit sur eux. Dans notre bouche, ce ne sont que des jugements faux. Cependant, il était nécessaire qu'ils fussent tenus pour vrais, telle une croyance de premier plan, comme un aspect qui fait partie de l'optique même de la vie. Et pour tenir compte enfin de l'énorme influence exercée dans toute l'Europe par la philosophie allemande, j'espère que l'on comprendra son droit aux guillemets. On ne saurait douter qu'une certaine virtus dormitiva y ait participé. On était ravis parmi les nobles désœuvrés de toutes les nations, moralistes, mystiques, artistes, chrétiens aux trois quarts et obscurantistes politiques, ravis de posséder, grâce à la philosophie allemande, un contrepoison pour combattre le sensualisme tout-puissant qui, du siècle dernier, avait débordé dans celui-ci. Bref, sensus assoupirait.